Livre deuxième. La faute de l'abbé Mouret, chapitre 12. Mais les jours suivants, Albine et Serge restèrent embarrassés l'un devant l'autre. Ils évitèrent de faire aucune allusion à leur promenade sous les arbres. Ils n'avaient pas échangé un baiser, ils ne s'étaient pas dit qu'ils s'aimaient. Ce n'était point une honte qui les empêchait de parler, mais une crainte, une peur de gâter leur joie. Et lorsqu'ils n'étaient plus ensemble, ils ne vivaient que du bon souvenir. Ils s'y enfonçaient, ils revivaient les heures qu'ils avaient passées, les bras à la taille, à se caresser le visage de leur haleine. Cela avait fini par leur donner une grosse fièvre. Ils se regardaient, les yeux meurtris, très tristes, causant de choses qui ne les intéressaient pas. Puis, après de longs silences, Serge demandait à Albine d'une voix inquiète. « Tu es souffrante ?» Mais elle hochait la tête. Elle répondait « Non, non. C'est toi qui ne te portes pas bien. Tes mains brûlent. » Le parc leur causait une sourde inquiétude qu'ils ne s'expliquaient pas. Il y avait un danger au détour des quelques sentiers qui les guettaient, qui les prendraient à la nuque pour les renverser par terre et leur faire du mal. Jamais ils n'ouvraient la bouche de ces choses. Mais à certains regards poltrons, ils se confessaient cette angoisse qui les rendait singuliers, comme ennemis. Cependant, un matin, Albine hasarda, après une longue hésitation, « Tu as tort de rester toujours enfermée. Tu retomberas malade. » Serge eut un rire gêné. « Bah, murmura-t-il, nous sommes allés partout. Nous connaissons tout le jardin. » Elle dit non de la tête, puis elle répéta très bas. « Non, non, nous ne connaissons pas les rochers. Nous ne sommes pas allés aux sources. C'est là que je me chauffais l'hiver. Il y a des coins où les pierres elles-mêmes semblent vivre. » Le lendemain, sans avoir ajouté un mot, ils sortirent. Ils montèrent à gauche, derrière la grotte où dormait la femme de marbre. Comme ils posaient le pied sur les premières pierres, Serge dit « Ça nous avait laissé un souci. Il faut voir partout. Peut-être serons-nous tranquilles après. » La journée était étouffante, d'une chaleur lourde d'orage. Ils n'avaient pas osé se prendre à la taille. Ils marchaient l'un derrière l'autre, tout brûlant de soleil. Elle profita d'un élargissement du sentier pour le laisser passer devant elle, car elle était inquiète par son haleine. Elle souffrait de le sentir derrière son dos, si près de ses jupes. Autour d'eux, les rochers s'élevaient par larges assises. Des rampes douces étageaient des champs d'immenses dalles hérissées d'une rude végétation. Ils rencontrèrent d'abord des genêts d'or, des nappes de thym, des nappes de sauge, des nappes de lavande. Toutes les plantes balsamiques et les genévriers âpres et les romarins amers, d'une odeur si forte qu'elle les grisait. Aux deux côtés du chemin, des houx par moments faisaient des haies qui ressemblaient à des ouvrages délicats de serrurerie, à des grilles de bronze noir, de fer forgé, de cuivre poli, très compliqués d'ornements, très fleuri de rosaces épineuses. Puis, il leur fallut traverser un bois de pins pour arriver aux sources. L'ombre maigre pesait à leurs épaules comme du plomb. Les aiguilles sèches craquaient à terre sous leurs pieds avec une légère poussière de résine qui achevait de leur brûler les lèvres. « Ton jardin ne plaisante pas par ici, » dit Serge en se tournant vers Albine. Ils sourirent. Ils étaient au bord des sources. Ces eaux claires furent un soulagement pour eux. Elles ne se cachaient pourtant pas sous des verdures comme les sources des plaines qui plantent autour d'elles d'épais feuillages afin de dormir paresseusement à l'ombre. Elles naissaient en plein soleil dans un trou du roc sans un brin d'herbe qui verdit leur eau bleue. Elles paraissaient d'argent, toutes trempées de la grande lumière. Au fond d'elles, le soleil était du sable en une poussière de clarté vivante qui respirait. Et du premier bassin, elles s'en allaient. Elles allongeaient des bras d'une blancheur pure. Elles rebondissaient, pareilles à des nudités joyeuses d'enfants. Elles tombaient brusquement en une chute dont la courbe molle semblait renverser un torse de femme d'une chair blonde. « Trempe tes mains !» cria Albine. Au fond, l'eau est glacée. En effet, ils purent se rafraîchir les mains. Ils se jetèrent de l'eau au visage. Ils restèrent là, dans la buée de pluie qui montait des nappes ruisselantes. Le soleil était comme mouillé.
Tiens, regarde! Cria de nouveau Albine. Voilà le parterre, voilà les prairies, voilà la forêt.
Un moment, ils regardèrent le paradou étalé à leurs pieds.
Et tu vois, continua-t-elle, et on n'aperçoit pas le moindre bout de muraille. Tout le pays est à nous jusqu'au bord du ciel.
Il s'était enfin pris à la taille, sans le savoir, d'un geste rassuré et confiant. Les sources calmaient leur fièvre. Mais comme ils s'éloignaient, Albine parut céder à un souvenir. Elle ramena Serge en disant
« Là, au bas des rochers, j'ai vu la muraille une fois il y a longtemps. »
« Mais on ne voit rien, » murmura Serge légèrement pâle.
« Si, si, elle doit être derrière l'avenue des marronniers, après ses broussailles. »
Puis, sentant le bras de Serge qui la serrait plus nerveusement, elle ajouta
« Je me trompe peut-être. » Pourtant, je me rappelle que je l'ai trouvée tout d'un coup devant moi en sortant de l'allée. Elle me barrait le chemin, si haute que j'en ai eu peur. Et à quelques pas de là, j'ai été bien surprise. Elle était crevée. Elle avait un trou énorme par lequel on apercevait tout le pays d'à côté.
Serge la regarda avec une supplication inquiète dans les yeux. Elle eut un haussement d'épaule pour le rassurer.
« Oh, mais j'ai bouché le trou, va. Je te l'ai dit, nous sommes bien seuls. Je l'ai bouché tout de suite. J'avais mon couteau. J'ai coupé des ronces. J'ai roulé de grosses pierres. Je défie bien à un moineau de passer. Si tu veux, nous irons voir un de ces jours. Ça te tranquillisera. »
Il dit non de la tête. Puis ils s'en allèrent, se tenant à la taille. Mais ils étaient redevenus anxieux. Serge abaissait des regards de côté sur le visage d'Albine qui souffrait, les paupières battantes à être ainsi regardée. Tous deux auraient voulu redescendre, s'éviter le malaise d'une promenade plus longue, et malgré eux, comme cédant à une force qui les poussait, ils tournèrent un rocher, ils arrivèrent sur un plateau où les attendait de nouveau l'ivresse du grand soleil. Ce n'était plus l'heureuse langueur des plantes aromatiques, le mus, du thym, l'encens de la lavande. Ils écrasaient des herbes puantes, l'absinthe d'une griserie amère, la rue d'une odeur de chair fétide, la valériane brûlante, toute trempée de sa sueur aphrodisiaque, des mandragores, des ciguës, des hélébores, des belladones, montaient un vertige à leurs tempes, un assoupissement qui les faisait chanceler au bras l'un de l'autre, le cœur sur les lèvres. « Veux-tu que je te prenne ?» demanda Serge à Albine en la sentant s'abandonner contre lui. Il la serrait déjà entre ses deux bras, mais elle se dégagea, respirant fortement.
« Non, tu m'étouffes, » dit-elle. « Laisse, je sais ce que j'ai. La terre remue sous mes pieds, vois-tu, c'est là que j'ai mal. »
Elle lui prit une main qu'elle posa sur sa poitrine. Alors lui devint tout blanc. Il était plus défaillant qu'elle. Et tous deux avaient des larmes au bord des yeux de se voir ainsi sans trouver de remède à leur grand malheur. Allait-il donc mourir là, de ce mal inconnu ? « Viens à l'ombre, viens t'asseoir, » dit Serge. « Ce sont ces plantes qui nous tuent avec leur odeur. » Il la conduisit par le bout des doigts car elle tressaillait lorsqu'il lui touchait seulement le poignet. Le bois d'arbre vert où elle s'assit était fait d'un beau cèdre qui élargissait à plus de 10 mètres les toits plats de ses branches. Puis, en arrière, poussaient les essences bizarres des conifères. Les cupressus au feuillage mou et plat comme une épaisse guipure. Les abiers, droits et graves, pareils à d'anciennes pierres sacrées, noires encore du sang des victimes. Les taxus dont les robes sombres se frangeaient d'argent. Toutes les plantes à feuillage persistant, d'une végétation trapue, à la verdure foncée du cuir verni, éclaboussée de jaune et de rouge, si puissante que le soleil glissait sur elle sans l'assoupir. Un araucaria surtout était étrange, avec ses grands bras réguliers, qui ressemblaient à une architecture de reptiles, hantés les uns sur les autres, hérissant leurs feuilles imbriquées comme des écailles de serpents en colère. Là, sous ces ombrages lourds, la chaleur avait un sommeil voluptueux. l'air donné sans un souffle dans une moiteur d'alcôve, un parfum d'amour oriental, le parfum des lèvres peintes de la tsunamite s'exhalait des bois odorants.
« Tu ne t'assois pas ?» dit Albine.
Et elle s'écartait un peu pour lui faire de la place. Mais lui recula, se tint debout. Puis comme elle l'invitait de nouveau, il se laissa glisser sur les genoux à quelques pas. Il murmurait
« Non, j'ai plus de fièvre que toi, je te brûlerai.
Écoute, si je n'avais pas peur de te faire du mal, je te prendrais dans mes bras si fort que nous ne sentirons plus nos souffrances. » Il se traîna sur les genoux, il s'approcha un peu. Oh, « T'avoir dans mes bras, t'avoir dans ma chair, je ne pense qu'à cela. La nuit, je m'éveille, serrant le vide, serrant ton rêve. Je voudrais ne te prendre d'abord que par le bout du petit doigt. Puis je t'aurai tout entière, lentement, jusqu'à ce qu'il ne reste rien de toi, jusqu'à ce que tu sois devenue mienne de tes pieds ou dernier de tes cils. Je te garderai toujours. » Ce doit être un bien délicieux de posséder ainsi ce qu'on aime. Mon cœur fondrait dans ton cœur. Il s'approcha encore. Il aurait touché le bord de ses jupes s'il avait allongé la main. Mais je ne sais pas. Je me sens loin de toi. Il y a quelques murs entre nous que mes poings fermés ne sauraient abattre. Je suis trop fort pourtant aujourd'hui. Je pourrais te lier de mes bras, te jeter sur mon épaule, t'emporter comme une chose à moi. Et ce n'est pas cela. Je ne t'aurai pas assez. Quand mes mains te prennent, elles ne tiennent qu'un rien de ton être. Où es-tu donc tout entière pour que j'aille t'y chercher ? Il était tombé sur les coudes, prosterné dans une attitude écrasée d'adoration. Il posa un baiser au bord de la jupe d'Albine. Alors, comme si elle avait reçu ce baiser sur la peau, elle se leva toute droite. Elle portait les mains à ses tempes, affolées, balbutiantes.
« Non, je t'en supplie, marchons encore !»
Elle ne fuyait pas. Elle se laissait suivre par Serge, lentement, éperdument, les pieds butant contre les racines, la tête toujours entre les mains pour étouffer la clameur qui montait en elle. Et quand ils sortirent du petit bois, ils firent quelques pas sur des gradins de rochers où s'accroupissait tout un peuple ardent de plantes grasses. C'était un rampement, un jaillissement de bêtes sans nom entrevues dans un cauchemar, de monstres tenant de l'araignée, de la chenille, du cloporte, extraordinairement grandi, à peau nue et glauque, à peau hérissée du duvet immonde, traînant des membres infinis, des jambes avortées, des bras cassés, les uns ballonnés comme des ventres obscènes, les autres avec des échines grossies d'un pullulement de gibbosité, d'autres dégingandés, en loques, ainsi que des squelettes aux charnières rompues. Les mamillarias entassaient des pustules vivantes. Un grouillement de tortues verdâtres terriblement barbues de longs crins plus durs que des pointes d'acier. Les échinocactus, montrant davantage de peau, ressemblaient à des nids de jeunes vipères nouées. Les échinopsis n'étaient qu'une brosse, une excroissance aux poils roux qui faisait songer à quelque insecte géant roulé en boule. Les opuntias dressaient en arbre leurs feuilles charnues, poudrée d'aiguilles rougies, pareilles à des essaims d'abeilles microscopiques, à des bourses pleines de vermine dont les mailles crevaient. Les gastérias élargissaient des pattes de grands faucheux renversés aux membres noirâtres, pointillés, striés, damassés. Les cérus plantaient des végétations honteuses, des polypiers énormes, maladies de cette terre trop chaude, des boches d'une sève empoisonnée. Mais les aloès, surtout, épanouissaient en foule leur cœur de plantes pâmées. Il y en avait de tous les verts, de tendres, de puissants, de jaunâtres, de grisâtres, de bruns éclaboussés de roux, de verts bordés d'or pâle. Il y en avait de toutes les formes, aux feuilles larges, découpées comme des cœurs, aux feuilles minces semblables à des lames de glaive, les uns dentelés d'épines, les autres finement ourlés. D'énormes portant à l'écart le haut bâton de leurs fleurs d'où pendaient des colliers de corail rose. De petits, poussés en tas sur une tige ainsi que des floraisons charnues dardant de toutes parts des langues agiles de couleuvre. « Retournons à l'ombre, » implora Serge. « Tu t'assoiras comme tout à l'heure et je me mettrai à genoux et je te parlerai. »
Il pleuvait là de larges gouttes de soleil. L'astre y triomphait, y prenait la terre nue, la serrait contre l'embrasement de la poitrine. Dans l'étourdissement de la chaleur, Albine chancela, se tourna vers Serge. « Prends-moi, » dit-elle d'une voix mourante. Dès qu'ils se touchèrent, ils s'abattirent, les lèvres sur les lèvres sans un cri. Il leur semblait tomber toujours, comme si le roc se fût enfoncé sous eux indéfiniment. Leurs mains errantes cherchaient leur visage sur leur nuque, descendaient le long de leurs vêtements. Mais c'était une approche si pleine d'angoisse qu'ils se relevèrent presque aussitôt, exaspérés, ne pouvant aller plus loin dans le contentement de leurs désirs. Et ils s'enfuirent, chacun par un sentier différent. Serge courut jusqu'au pavillon, se jeta sur son lit, la tête en feu, le cœur au désespoir. Albine ne rentra qu'à la nuit, après avoir pleuré toutes ses larmes dans un coin du jardin. Pour la première fois, ils ne revenaient pas ensemble. Là, de la joie des longues promenades, pendant 3 jours, ils se boudèrent. Ils étaient horriblement malheureux.